un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
La jeune femme d'une trentaine d'années est l'heureuse propriétaire d'un deux pièces de 25 mètres carrés dans le 20e arrondissement de Paris, un quartier anciennement populaire et récemment gentrifié. Quand elle l'a acheté, cet appartement, les banques accordaient des prêts à tour de bras. Personne n'avait jamais entendu parler du Covid et manger de la viande n'était pas encore un luxe. Depuis, les choses ont bien changé. Et en novembre 2022, son chauffe-eau a pété. Puis son immeuble a voté le ravalement de la façade et c'est là qu'elle a été happée par le business Airbnb. Les montants auxquels elle pouvait louer son appartement l'ont sidérée. Et cette activité a augmenté son salaire d'un tiers. Et puis, elle s'est mise à considérer le coût de la vie en nuit Airbnb et parfois même à dormir ailleurs pour pouvoir louer. Remplacer son chauffe-eau, 8 nuits Airbnb. Le ravalement, 2 semaines Airbnb. Et c'est là qu'elle a dérivé. Un nouveau vélo, 6 nuits Airbnb. Ce sac en croco noir, à peine 2 nuits. Et un resto après le 20 du mois, une demi-nuit Airbnb. Sans compter le nombre de robes et de diamants qu'elle pourra s'acheter si elle loue pendant les JO. Elle ne sait pas précisément quand, mais elle a le sentiment aujourd'hui d'être devenue une affreuse capitaliste. Alors moi qui la connais, je peux vous dire qu'elle n'est rien de cela, elle est juste une pigiste précaire. Mais c'est la raison pour laquelle Claudia Prolongeau, productrice au pied sur terre, a pris ce sujet à bras le corps et est allée voir si d'autres comme elle avaient cette expérience, cette honte et les revenus qui vont avec. Tout de suite donc, trois histoires de propriétaires qui ont décidé de louer leur maison ou leur appartement. Par Claudia Prolongeau, évidemment.
Je suis Chantal Brault, j'habite à Restigné en Indre-et-Loire. J'ai 69 ans. En 1972, j'ai quitté la région parisienne parce que, avec mes parents, on allait en vacances en Touraine. Et donc, j'avais fait connaissance d'un jeune homme. Et à l'époque, donc en 1972, j'ai décidé de quitter et de venir en Touraine. Puis après, je me suis mariée en 1973. Les années 73, c'était compliqué pour trouver du travail. Il y a eu une période là un petit peu tristounette. Et j'ai commencé à travailler un petit peu dans l'entreprise de mon mari, qui était agriculteur, viticulteur. Donc je m'occupais du secrétariat, de la comptabilité et puis divers petits travaux à côté. Après, j'ai eu mon premier fils en 1976. Là non plus, j'avais pas repris de travail d'employé puisque je travaillais dans l'entreprise de mon mari. Donc ça me permettait d'élever aussi mon fils. Quelques années ont passé et après j'ai eu mon second fils en 82. Donc là c'est pareil, je l'ai élevé aussi en parallèle de mon emploi dans l'entreprise de mon mari sans être déclarée. Donc voilà. Et en 84, j'ai repris un travail. Parce qu'au niveau agriculture, viticulture, c'était compliqué aussi au niveau salaire. Et là, j'ai souhaité quand même reprendre un travail à temps partiel. Donc, j'ai été embauchée à la SNCF. J'étais pas titularisée, c'était un contrat. Poste que j'ai occupé pendant 4 bonnes années. J'allais faire des remplacements dans les petites gares, au guichet. J'aimais bien ce travail-là, avec les renseignements. Maintenant, les gens ont ça sur Internet, mais à l'époque, c'était les gros bouquins, recherche d'horaire, donner les indications aux gens en essayant de ne pas se tromper pour pas leur donner une indication d'un train qui n'a pas lieu. Et après, les petites gares se fermant, j'ai recherché un travail. Et en définitive, quelques temps après, j'ai été embauchée donc au cabinet médical de la commune où j'habite maintenant, donc à temps partiel, pendant ces 23 ans, parce que je continuais à travailler dans l'entreprise de mon ex-mari. Hein. Donc voilà, ce qui faisait des journées bien remplies. Donc je me suis séparée en 2002. Après mon divorce, ce que j'avais gagné en définitive dans l'entreprise un petit peu a été un petit peu approuvé. Donc j'ai quand même obtenu quelque chose et je me suis dit, il est temps que j'achète quelque chose. J'avais 54 ans et là, j'ai décidé de faire construire ma maison. Donc ça a été une aventure aussi pour une femme seule, de faire construire sa maison et être devant et les constructeurs et devant les artisans. C'était un peu compliqué. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire construire ma maison. Au rez-de-chaussée, elle est de plein pied. C'est jour salle à manger, avec deux grandes baies vitrées, avec pleine vue sur, sur mon jardin, les vignes, la campagne, avec des très beaux couchers de soleil de ce côté-là. De l'autre côté, j'ai les levées de soleil. Donc, j'ai deux chambres qui sont à l'étage. Et ces deux chambres, je les avais fait spécialement pour mes enfants quand ils viennent et pour des amis que je souhaitais accueillir aussi, hein. Donc, je suis rentrée dans ma maison en juillet 2008 et j'ai été licenciée en novembre 2011. J'étais encore en remboursement d'emprunt et j'étais à deux pas de revendre parce que je ne retrouvais pas d'emploi. J'ai vécu chichement et au bout d'un peu plus de deux ans, j'ai quand même retrouvé un emploi, mais c'était un contrat aidé par l'État. Petite somme de 675 euros avec un complément Pôle emploi pour survivre. Donc, il fallait vraiment avoir envie de travailler, hein. J'ai retrouvé cet emploi dans un collège, donc comme secrétaire gestionnaire, et en même temps, j'ai donné des cours de calligraphie en luminure aux enfants. Donc, ce qui était beaucoup apprécié. Mais par rapport à ce contrat aidé par l'État, je n'ai pas pu continuer. Et j'ai dû démissionner fin 2014 du collège, alors qu'ils souhaitaient me garder. Donc, merci les contrats aidés par l'État. Donc, à 61 ans et des poussières, quoi, enfin presque 62, je me suis retrouvée à nouveau sans emploi quand j'ai fait ma demande de retraite, puisque je ne pouvais plus continuer à travailler au collège. La somme avancée, ça devait être 850 euros à l'époque, ou 870, quelque chose comme ça, je me souviens plus très bien. Et c'est là que je me suis dit, ben, il va falloir que tu fasses quelque chose, quoi, à côté. Parce qu'avec 870, j'avais encore mon emprunt à rembourser. Donc, j'assiste à des réunions de consommateurs rémunérés. Je fais aussi des tests que je fais depuis 25 ans, mais là, ça va bientôt se terminer par rapport à mon âge. Des tests de produits de beauté qui m'amènent un petit peu d'argent et de subvenir un peu plus à mes besoins. À l'époque où je travaillais pour mon mari, je ne pensais pas du tout que ça m'impacterait si fortement sur mon revenu que je perçois de retraite. Donc, j'ai été déclarée 3 années quand même conjoint collaborateur, mais ça m'a pas amené grand-chose, hein. À l'heure actuelle, j'ai 95 euros de retraite d'agricole pour toutes ces années-là. Donc voilà, je m'imaginais pas une grosse retraite, mais bon, oui, c'est quand même petit, quoi. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 950, hein. Et mon fils aîné m'a dit, t'as des chambres. Et depuis 1er janvier 2015, j'ai créé l'annonce sur Airbnb. Puis ma foi, quelques jours après, j'ai eu une demande. C'était des jeunes Brestois qui voulaient s'arrêter sur leur trajet retour. Donc mes deux chambres ont été louées. Ils étaient 4 et j'ai trouvé que c'était super. Donc j'avais tout préparé. Je leur avais fait un petit déjeuner avec des petits gâteaux comme je fais d'habitude. C'est pas des viennoiseries, mais tout est préparé maison. Donc mon pain brioché maison, j'ai mes confitures maison, j'ai des petits gâteaux à côté, tout est fait maison. Et depuis j'ai pas arrêté, quoi. Le tarif était moindre au démarrage, hein, parce qu'on sait pas trop, on tâtonne, hein. Je crois que j'avais mis à 37 ou 38 euros. La chambre, là, je l'ai passée à 52 parce qu'on a quand même des frais. Tout augmente à côté, hein, quand on doit acheter la farine, tout, c'est pour confectionner. L'électricité est chère, tout. Et comme j'ai beaucoup de nuits, c'est beaucoup de lavage aussi. Les draps, à chaque fois, je dois les laver. Tout est, le linge aussi, hein, le linge de toilette. Donc, c'est énormément de frais à côté. Donc 52 euros la nuit pour deux personnes, avec les petits déjeuners compris. Et grâce à l'allocation, donc j'ai un plus quand même entre 150 et 200 euros par mois, on va dire, étalé sur toute l'année. Hein. C'est pas énorme, mais bon, voilà. Parce que aussi, de temps en temps, je me mets des plages de repos, parce que quand c'est une nuit tous les jours, c'est beaucoup. Hein. Ça fait énormément de travail et d'investissement physique. Même si je vais bientôt avoir 70 ans, tant que je pourrai faire un petit peu à côté pour améliorer ma retraite, je ferai. Devoir demander à Pierre-Paul Jacques de quoi satisfaire ses besoins, non. Moi, les aides, non. Non. Pour l'instant, j'ai pas d'objectif d'arrêt. Ça m'aide bien. Et puis, ça me permet aussi d'être moins isolée, de recevoir des gens sympathiques. Voilà, j'aime bien.
Je m'appelle Sophie et j'ai 50 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants et je vis dans une maison en banlieue parisienne. En 2020, avec mon mari, on s'est dit qu'on allait louer notre maison. Les années précédentes, quand on partait en vacances l'été, on aimait prêter notre maison. Là, pour la première fois, on s'est dit, tiens, et si on essayait peut-être de la louer ? Nous, quand on va en vacances, ça nous arrive très souvent de louer par Airbnb. Et donc, on rencontre le propriétaire, on est chez lui pendant 2-3 semaines, ça s'est toujours bien passé. Donc là, pour la première année, on s'est dit, on va tester, pour voir si ça fonctionne, pour voir à peu près le prix qu'il faut mettre en place. Et donc, cette location, on l'a testée 2 mois avant, en juin, sur un gros week-end. On a eu très vite des contacts. Et finalement, on a été en relation avec une personne, un jeune homme, qui, en sortant du Covid, nous a dit « Je vais accueillir ma famille à Paris, donc mes parents. Mon appartement d'étudiant est trop petit, donc je cherche une maison pour passer le week-end avec ma famille. » Donc nous, on a entendu le mot « parents » et on s'est dit « C'est parfait, c'est safe. » Donc on a fait un deal avec lui pour 3 nuits, donc du vendredi au lundi. Le vendredi matin, on a donc reçu 7 personnes. On a vu un jeune homme très bien, très gentil. On lui a fait visiter la maison. Il nous a redit que ses parents n'étaient pas encore arrivés, mais qu'ils étaient dans le train en remontant de Nice. On lui a laissé 2 paires de clés. Il nous a demandé si on était là ce week-end. On lui a dit que nous-mêmes, on allait voir nos parents à quelques heures de route. Et on est parti comme ça. Et le samedi soir, là, il y a un voisin qui nous appelle vers 23h et qui nous dit... Il y a pas mal de monde dans la rue, des gens qui sont en train de boire des coups, de fumer des cigarettes dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, en fait, ça va très vite. Et donc, mon mari appelle le jeune homme qui répond et qui lui dit tout de suite, ne vous inquiétez pas, monsieur, dans 10 minutes, c'est terminé, on a des amis, on s'en va. Le ton est un petit peu monté, mais nous, on était à des kilomètres. Et donc, on ne peut pas faire plus que menacer par téléphone de « attention, ça peut vite mal se passer ici, il y a une entourloupe ». Donc ça, c'était vers 23h, minuit et demi, un deuxième coup de fil, un deuxième voisin, en l'occurrence une voisine, qui nous dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un monde fou chez vous, il y a une musique très forte, il y a au moins 200 personnes chez vous ». Il faut savoir que notre maison, elle fait 100 de mètres carrés. Donc, d'un coup, effectivement, le scénario d'horreur arrive. On dit, appelez la police. Et là, on nous répond, la police est venue. Il y a tellement de monde qu'ils ne peuvent pas intervenir. On est quand même le dernier week-end de couvre-feu. Donc, normalement, à partir de 23h, tout le monde était chez soi et tout le monde était couché. Et donc, la police n'intervient même pas. Donc là, on se regarde avec mon mari. On se dit, OK, il faut qu'on y aille, en fait. Et donc on prend la route et on avait à peu près 5-6 heures de route. Il était à peu près 1h du matin. On roule dans un stress pas possible. On se fait une nuit blanche, ce qui est quand même un petit peu dangereux en plus. Donc on se relaie comme on peut. On ne desserre pas la mâchoire. On arrive à 7h du matin. On se gare devant chez nous. La rue est remplie de bouteilles d'alcool vides et de bombes de gaz hilarants. La rue sent l'alcool. Il n'y a plus personne dans la rue. Et là, mon mari me dit, écoute, reste dans la voiture. J'y vais. Donc, c'est un petit peu stressant quand même. Donc il part dans la maison. Il ressort après 2-3 minutes. Il me dit, écoute, ils sont partis, mais la maison est détruite. Donc là, moi, je rentre dans la maison. Déjà, on a un petit jardin devant et la pelouse était noire, souillée. Et quand je suis rentrée, déjà, il y a une odeur d'alcool très forte. Il y a du liquide partout par terre sur le parquet, donc ça colle. Et puis, vous voyez plein d'objets par terre, donc des objets qui nous appartiennent, qui sont cassés par terre. Vous avez des bouteilles et des verres partout par terre. Les murs aussi, les murs sont sales, les murs sont pleins d'alcool. Les mégots de cigarettes qui ont brûlé le parquet. Les lits qui ont été ouverts, sans savoir vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur. Les toilettes, bien évidemment, les toilettes qui peuvent être emplies de... Voilà, de vomi, etc. À la fois, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de crier, vous avez envie de vous effondrer. Et puis, c'est pas le moment, parce qu'en fait, il y a beaucoup de démarches en fait, derrière à faire. Déjà nettoyer, puis après aller à la police. Enfin, c'est pas le moment de flancher. Donc, c'est un moment très particulier. À la fois, on a envie de craquer et il faut rester très solide. Notre fille aînée est arrivée très vite. Et en fait, là, il y avait une énorme colère à gérer. Et l'envie vraiment d'en découdre avec eux. Donc, elle a sauté sur son téléphone et elle a fait une recherche. On a retrouvé sur les réseaux sociaux le lendemain des stories, en fait. Donc, on a vu les organisateurs de la soirée. On a vu le type de personnes qui étaient venues chez nous pour faire la fête. Et la foule, en fait. Parce que ça grouillait de partout, en fait. Ça grouillait de partout. Ils étaient debout sur les meubles. Ils étaient dans toutes les pièces, trop nombreux. Dans le jardin, je vous dis même pas. C'était comme des... Enfin, moi, j'ai une image de rats, en fait, qui rentraient dans une maison. Le voir, c'est très difficile. C'est très particulier de visualiser son agresseur en train d'agresser votre intimité. Et donc, en fait, on avait une base de preuves énorme à montrer à la police. C'est ce qu'on a fait dès le lundi. Ma maison n'avait jamais été saccagée. Elle n'a pas été vandalisée, mais elle a été vraiment saccagée. C'est-à-dire que les gens ont fait la fête sans faire attention. Voilà, quand vous faites une fête chez vous, vous faites un minimum attention à ce que tout se passe bien. Là, vraiment, c'était rien à faire, quoi. Voilà, on a un endroit qui, plus est en plus, est plutôt joli, mais on l'exploite à fond. C'était tellement sale qu'il a fallu faire intervenir une entreprise de nettoyage pour aspirer les parquets, lessiver les murs, tous les murs, toutes les pièces. Ensuite, il a fallu racheter beaucoup de vaisselle, puisque les verres, notamment, s'étaient servis et il y avait eu beaucoup de casses. Il a fallu aussi nettoyer tous les fauteuils et les canapés qui sentaient très fort la transpiration et l'alcool à nouveau. On en a eu pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce qui est assez perturbant aussi, c'est que vous n'êtes jamais en contact avec des humains, avec Airbnb. Vous êtes en contact avec la plateforme. Vous expliquez ce qui vous est arrivé, vous téléchargez des factures pour la remise en état du lieu et pour tous les vols que vous avez subis. Et le temps est assez long, il ne se passe pas grand-chose, c'est assez lent. Donc finalement, très rapidement, on a menacé Airbnb d'aller parler de notre histoire aux médias. Et on a été mis en relation avec une personne par email. Et tout s'est un peu accéléré puisque finalement, un mois plus tard, nous avons été remboursés. Malgré tout, il n'était pas question pour Airbnb de payer le moindre préjudice moral. Donc on a déposé plainte contre X. Mais jamais, en fait, il n'y a eu de suite à cela. Puisque ça fait aujourd'hui 3 ans et on ne sait même pas si la moindre personne a été vue par la police. Alors depuis, notre maison est remise en état. On l'a reprêté l'été, comme on faisait auparavant, à des amis. Nos enfants nous ont fait promettre de ne plus jamais louer la maison, que ce soit par Airbnb ou par un autre moyen. Donc on leur a promis de ne plus le faire. Après, c'est sûr que quand tu racontes cette histoire en soirée, t'as un succès fou, ça c'est sûr. Les gens sont abasourdis. Enfin bon, c'est un gros succès finalement cette histoire. Si tu veux faire rire, si tu veux épater en soirée, tu racontes cette histoire, ça marche à tous les coups.
Je suis Camille, j'ai 43 ans, je vis à Paris depuis bien trop longtemps, une vingtaine d'années je pense, près du Père Lachaise depuis 15 ans. Je n'imaginais pas rester aussi longtemps dedans. Je dois même dire que le jour où mon âge a dépassé la surface de mon appartement qui est de 37 mètres carrés, je me suis dit qu'il était temps de bouger et en fait j'y suis encore et je fais des travaux, ce qui indique que je vais y rester encore un petit moment en réalité. Alors je pense que j'ai découvert Airbnb en 2011, quand ça a démarré. J'ai longtemps pensé à le louer plutôt dans l'idée du couchsurfing. Donc l'idée, c'est que tu as une communauté de personnes qui met à disposition son canapé à des personnes qui voyagent, qui passent par là. L'idée, c'est qu'on développe quelque chose de très convivial avec le couchsurfing et de gratuit à la base. Et donc il y avait à la fois cette idée d'accueillir des gens sur mon canapé et en même temps, il y avait Airbnb qui arrivait là-dessus et qui en plus proposait un petit revenu. Donc je dis, pourquoi pas. Et donc j'ai dû mettre un an à me décider en 2011. Et donc j'ai mis une annonce en ligne pour louer mon appartement sur Airbnb. Alors à l'époque, il y avait une option pour les hôtes qui consistait à nous proposer les services d'un photographe qui était rémunéré par Airbnb. Et le gars est venu avec son grand angle, il a fait des super photos et à partir de là, j'ai eu une annonce certifiée, validée par Airbnb. C'est ça que ça apportait à l'époque. C'est-à-dire que non seulement on avait des photos, mais en plus ça validait le fait que l'appartement était bon à la location, quoi. Je me rappelle surtout de la manière dont ça s'est fait avec ma première guest, c'était Anne-Marie. Anne-Marie, elle venait du Canada, elle venait à Paris en permis vacances-travail, et j'avais moi-même été quelques années auparavant à Toronto en permis vacances-travail, et c'est ça qui m'a inspiré confiance. Et puis elle avait des super commentaires qui disaient « Anne-Marie est passée chez moi, c'est encore plus propre qu'avant ». Donc je me suis dit « Banco, tous les signaux sont au vert pour l'accueillir ». Et de là, j'ai finalement commencé à louer quand j'étais en vacances, quand j'étais en week-end, quand j'étais en déplacement. J'avais un tas de petites astuces. Tout était organisé pour que je puisse facilement mettre mon appartement en mode Airbnb, avec les petits guillemets. Je prévenais vraiment mes locataires qu'on n'était pas sur des standards d'hôtel, parce que j'ai vu évoluer au fil des années les demandes aussi des guests. C'est-à-dire qu'au tout début, les gens étaient vraiment dans un esprit très de couchsurfing où ils étaient accueillis chez quelqu'un. Et là, j'ai bien senti qu'il y avait une attente plus hôtelière, parce que Airbnb était bien plus démocratisé. On était vraiment, même les communications d'Airbnb dans le métro et autres étaient vraiment axées sur le complément de rémunération, faites de l'argent, partez en vacances grâce à Airbnb. Il y avait quelque chose de très, très, très financier et pécunier. Et c'est devenu trop à partir du moment où je me suis retrouvée en transition professionnelle. Et là, je l'ai fait plus pour des raisons pécuniaires. En fait, il y avait trop de fréquences de location sur une période courte, mais c'était suffisant pour me sentir finalement plus tout à fait chez moi. Et pour que mon chez moi soit un lieu rémunérateur au lieu d'être mon lieu ressourçant à moi. Donc ça devenait une ressource financière avant d'être mon lieu ressource à moi. Je me souviens par exemple être en train de visiter une exposition à Paris, et j'ai une petite notif Airbnb. Et là, tout à faire cessante, j'arrête de regarder l'expo et je réponds tout de suite à la personne. Je me suis arrêtée, je me suis dit, mais t'es en train de passer du temps pour toi. Et là, t'es tout de suite en mode business, quelque part, pour répondre à cet inconnu. J'avais cette idée que oui, ça allait me rapporter X nuits, j'avais déjà le calcul en tête, et qu'il fallait pas passer à côté. Et c'est là que j'en ai un petit peu abusé, et que j'ai senti que ça ne me convenait pas. Et là, depuis 2020, je n'ai absolument plus loué chez moi parce que j'avais besoin de me sentir chez moi. Aujourd'hui, mon appartement est en travaux, en rénovation complète. Et c'est quelque chose que je prépare depuis au moins 2 ans. Donc, c'est redevenu ma grotte, on va dire. Et je me rends compte maintenant, avec tous les devis entre les mains et tous les montants, que je ne l'avais pas du tout réenvisagé. C'est vrai qu'il est très probable que je reprenne la location, toujours en mode loc pendant que je suis en vacances, en déplacement, en week-end. Et très probablement que je ferai en sorte de ne pas être à Paris au moment des JO. Et là, j'aimerais beaucoup le louer un mois ou deux. Je reste dans le cadre des 120 jours aussi des propriétaires loueurs. Et pour le coup, mon appartement monte en standing. Alors, c'est pas l'objet premier, mais de fait, il monte en standing. Donc, je vais aussi adapter mon prix à ça. Mais là, vu que je refais tout, j'en profite du coup pour optimiser aussi mon aménagement pour accueillir des invités, des guests Airbnb. Typiquement, autour de mon lit aussi, je vais avoir des placards que je n'avais pas avant. Je me dis que ces deux placards pourraient être les placards que je pourrais facilement vider pour les laisser à disposition de mes guests, pour des guests qui viennent quelques jours ou quelques semaines, quoi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui, depuis 10 ans, me disent « Ah, mais comment tu fais? Tu loues ton appartement? Tu as des inconnus chez toi ?» Et moi, je leur ai toujours répondu « Bah, écoute, oui, j'accueille des personnes chez moi. Du moment que je ressens du respect, et je suis très à l'aise de refuser une demande quand je ne sens pas la personne, ou, et les rares fois où j'ai eu des débuts de soucis, c'est-à-dire que j'ai senti quand même qu'on... La personne était voilà, c'était pas tout à fait comme aussi respectueux que d'habitude. Des personnes qui laissent un peu de bazar ou ce genre de choses. Bah, c'est justement dans cette phase où j'ai loué de façon un petit peu plus intensive. Et c'est ça qui fait que j'ai arrêté tout de suite. Moi, je me revendique comme étant une hôte, pour prendre le terme host, une hôte Airbnb de la première heure. Et je tiens encore aujourd'hui, 10 ans après, à conserver cette posture d'hôtesse qui accueille chez elle. J'accueille chez moi.
Apra la sua porta, faccia presto, non importa cosa crederei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si mette nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, possa la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, quali certi umili in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro.
C'était Airbnb, Super Host et Mauvais Trip, un reportage de Claudia Prolongeau, réalisé par Somaya Dabèche. Merci bien sûr à Camille, Sophie et Chantal. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris. Et notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello.
Lei non si dimostra illuminato dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria. Lo chiami pure se ritiene il capo della polizia. Ma chi conviene tutta quella paraonda? Se l'ozono si è ridotta ancora broda e basta un solo farapurto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra. E poi ficcatevelo in testa, non si viene al mondo tanto per godere, ma soltanto perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro. E ora nel cuore metti un muro. Sei lì dentro, non ti muovi ma ti sento, oggi te la cavi sì, ma non finisce qui.
in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendette onore per denaro e ora nel cuore metto